Donc, j'espère que tout le monde m'entend bien. Nous nous excusons du retard. Moi, là, je présume qu'il y a quelqu'un au bout de la ligne, soyons clairs, mais je ne peux pas en être sûr. Hop, on me met maintenant un chronomètre. Donc, on est bien, on peut commencer. Donc, d'accord. Donc, on s'excuse encore une fois du retard. On est dans notre cours sur le livre de l'Apocalypse. On commence un peu avec 20 et quelques minutes de retard. Nous nous en excusons encore une fois. Et on va prier. Et on va se remettre entre les mains du Seigneur. Seigneur, nous te remettons entre tes mains, Seigneur, ce temps que nous allons prendre au Dieu à l'étude de ta parole. Te demandons, Seigneur, que ce temps puisse être enrichissant pour tous et chacun, Seigneur, que tout le monde puisse y trouver, Seigneur, de la nourriture pour leur âme, de l'édification pour leur foi au Dieu et de l'assurance, Seigneur, pour les choses à venir. Parce que toi, Seigneur, tu ne changes pas. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement, ô Dieu. Donc, bien-aimés, on était rendu à Apocalypse. Je vais reprendre un peu les versets 11 à 16 que j'avais terminé en vous disant cette partie-là. Mais avant d'entrer dans la lecture comme telle, j'aimerais faire une petite mise au point. Parce que certaines personnes m'ont contacté, étant surpris un peu du fait que je vous avais mentionné dans le cours précédent et même dans l'autre avant un peu, que je vous avais mentionné le fait que l'Antéchrist aurait un royaume qui serait divisé, si vous voulez. Ou un royaume où il y aurait des tensions, une gouvernance qui va finir par s'effondrer. Et je vous avais expliqué la Babylone religieuse, dix rois se liguaient contre cette Babylone-là religieuse. Et il y a renversé, ce qui renversait un peu l'ordre social, l'ordre économique. Et par la venue de Christ, c'était la fin de cette gouvernance-là. Et il y a des gens qui se posaient des questions, qui pensaient, ou qui avaient en pensée, du moins, que le royaume de l'Antéchrist, tout le monde marchait main dans la main, les coudes serrés, pour servir ce nouveau royaume-là. Oui, ça va être en partie. Et l'explication que j'ai donnée à certaines personnes, dont une bien-aimée qui m'avait téléphoné peu de temps après, l'explication que j'avais donnée et que je vous donne maintenant pour clore cette partie-là, c'était que le royaume de l'Antéchrist va être un peu comme Daniel a dit à Nebuchadnezzar, quand ce roi-là, babylonien, a eu la vision de la statue, la tête d'or et ainsi de suite. Et c'était représentatif de tous les royaumes mondial, si vous voulez, ou qui se voulaient mondial pour leur époque, de tous les royaumes qui allaient gouverner cette terre. Donc, la tête d'or était Nebuchadnezzar. Ensuite de ça, on a eu différents royaumes, les Perses, les Mèdes, et ainsi de suite. Et le dernier royaume, Daniel va dire dans Daniel au chapitre 2, et vous pourrez le prendre, vous pourrez le vérifier pour vous-même à la maison, surtout le verset 35 du chapitre 2 et le verset 43, où il parle du royaume de l'Antéchrist, et il va dire que ce royaume-là est en partie fort et faible. Il dit au roi, comme tu as vu l'argile mêlée au fer, il dit comme l'argile de façon naturelle se mêle pas au fer pour former un alliage solide, il dit ce royaume-là va être en partie faible et en partie fort. Donc, il va dire, ce royaume-là va être en partie faible, en partie fort, il va avoir quelque chose de la force du fer, mais il va avoir une faiblesse structurelle au niveau des gens qui vont diriger, de la gouvernance, des alliances qui vont être faites entre l'Antéchrist et différents royaumes. Donc, la chose étant ainsi, je ne sais pas si vous entendez du bruit, mais moi, j'en entends. Et voilà, j'espère que j'ai fait la bonne chose. Et soyons clairs, ce royaume-là, ici, nous montre que c'est en partie fort et en partie faible. On le trouve dans Daniel, qui en parle, et nous l'avons vu dans le chapitre 17, 18 et une partie du chapitre 19. Et ici, maintenant, je reprends après vous avoir donné l'explication, parce que les gens s'imaginaient que c'était un royaume totalitaire, sans faille, que tout fonctionnerait sur quatre roulettes, que l'ennemi mènerait ça avec une main de fer dans un gant de velours. Mais ce n'est pas tout à fait cela. Il va y avoir des cabales, il va y avoir des confédérations qui vont se révolter à un moment donné contre la Babylone religieuse. Et c'est pour ça l'alliage dans la statue, comme je vous ai dit, le fer et l'argile. Daniel va dire, ce royaume-là de la fin va être en partie fort et en partie faible. Et on a vu sa force et on a vu ses faiblesses. Ceci étant dit, on reprend notre lecture dans Apocalypse chapitre 19. Là, je vous ramène où on était, chapitre 19, versets 11 à 16. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes, il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang, son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus de fin lin, blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les paîtra avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. On avait vu cela la semaine dernière. Maintenant, on prend un peu la description du Fils de Dieu vainqueur, du Dieu vivant qui revient en force sur la terre à la fin du règne de l'Antéchrist, à la fin des 7 ans de règne de l'Antéchrist. À cette fin-là, complètement, Jésus revient et là, maintenant, ça va être la fin du royaume politique. On a vu le royaume économique, religieux se faire jeter par terre. Et maintenant, ça va être la fin de ce règne-là complet. Et on va entrer dans le millénium de paix. Donc, beaucoup de personnes y voient dans cette description-là de Christ qui vient, chevaux blancs, avec une armée qui l'accompagne. Y voient un symbole. Que ce soit littéral ou un symbole, il n'en demeure pas moins. Et ici, je veux juste vous donner un peu l'état de choses, c'est-à-dire il n'en demeure pas moins que Christ va revenir. On pense, les étudiants de la parole de Dieu, des gens plus connaissants que moi, qui ont étudié le sujet de façon plus à fond encore, pense que ça va être littéral. Je le crois bien aussi. Et soyons clairs, lors de sa venue, la parole de Dieu nous dit, ses yeux étaient comme une flamme de feu, le regard du jugement. Et ne craignons pas le jugement. Tantôt, je vais vous expliquer certaines choses qui concernent le jugement. Il n'y a pas de justice sans jugement. Pour qu'il y ait justice rendue, il faut qu'il y ait un jugement de rendu. Donc, on regarde là maintenant le regard comme, si vous voulez, une flamme de feu qui est le symbole du jugement, du regard de jugement du Dieu vivant sur le monde d'alors. Sa tête va être couronnée de plusieurs diadèmes, à l'instar du séducteur qu'on a vu avec une tête recouverte de diadèmes aussi, qui était usurpée. Christ, lui, en son temps, va être couronné de diadèmes, mais ça va être, lui, un symbole d'autorité qui lui revient de plein droit. C'est-à-dire qu'il a donné sa vie, il a versé son sang pour nous racheter et pour racheter cette terre de la malédiction sous laquelle elle se trouve au moment où on parle. Et si, pour un moment, l'Antéchrist va avoir usurpé le rôle du Christ, il n'est pas le Christ. Donc, quand le Christ va revenir, lui, lui va prendre possession de ce qui lui appartient de droit. Et tout genou va fléchir devant lui. Christ, lors de son retour, a un nom secret et un nom aussi dévoilé. C'est-à-dire, les noms révélés se trouvent au verset 11, au verset 13 et au verset 16 qu'on vient de lire. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, son nom est la parole de Dieu. Ce que je vous ai lu là, au commencement. Mais il en possède un de plus, un nom que personne ne connaîtra à cet instant même. Ça peut nous paraître banal à nous, parce qu'un nom nous sert, nous, dans la modernité, si vous voulez, de nos pays dits évolués, tout simplement identifier quelqu'un. Tandis que là, dans ces temps-là, un nom avait une signification profonde. Un nom avait une signification profonde, souvent caractérielle de la personne. Donc, toute proportion gardée, on retrouve ce même fait dans la lettre adressée à l'église de Pergame, dans Apocalypse 2, 17, où celui qui reçoit un caillou sur lequel un nom est inscrit et un nom que personne ne connaît, sauf celui qui reçoit le caillou avec le nom inscrit dessus. Comme je vous ai dit, ça peut nous paraître à nous banal, mais dans ces sociétés-là qui nous sont contemporaines et de beaucoup, souvent les noms étaient très, 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 très significatifs de l'œuvre de la personne, du caractère de la personne et de ce qu'elle allait accomplir. Et exemple que je vous donne dans Genèse, chapitre 32, versets 27 et 28, on trouve Jacob qui lutte avec un ange et quand le jour se lève, l'ange le bénit. Et si on prend le texte au verset 28 du chapitre 32 de la Genèse, il dit encore: ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant: fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit: pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. L'ange va donner un nouveau nom à Jacob. Si je me rappelle bien, un des noms, je ne l'ai pas dans mes notes, Jacob, le nom Jacob voulait dire, entre autres, usurpateur ou celui qui supplante, parce que Jacob avait supplanté son frère, avait usurpé, mais pas tout à fait usurpé, mais saisi le droit d'aînesse. Et il dit: ton nom ne sera plus Jacob. Tu vas te faire maintenant appeler Israël, parce que ça avait une consonance pour la suite de la vie de Jacob. Israël, voulant dire, toujours si ma mémoire est bonne, parce que je ne l'ai pas en là, vainqueur de Dieu, ou le vainqueur pour Dieu. Et c'est pour ça qu'il va lui dire: tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Ton nom va être Israël, un vainqueur. Ton nom ne sera plus Jacob, mais je te change de nom. Et Jacob va lui demander son nom et l'ange, on pense que c'est une apparition de Christ dans l'Ancien Testament, et l'ange lui dit, pourquoi tu me demandes mon nom? Et il le bénit sans lui donner de réponse. Et on trouve la même chose pour ce qui est de Samson. Si vous tournez dans Juges au chapitre 13, au verset 18, l'ange de l'Éternel lui répondit, parce que il lui demande son nom à lui aussi, à cet ange-là. Pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. Il ne lui donne pas de réponse. Encore là, on pense que ce serait une apparition de Christ dans l'Ancien Testament. Donc ici, on voit que Christ revient avec des noms révélés qui donnent, si vous voulez, qui il est. Dans ces noms-là, on dit, au verset 11, il s'appelle fidèle et véritable. Donc, celui qui revient, c'est le fidèle, c'est le véritable. Lui, c'est vraiment lui, le Christ. On voit dans le verset 13, ce qui peut nous être surprenant, que je vais prendre avec vous dans quelques secondes. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Il dit ici, son nom est la parole de Dieu. C'est précis pourquoi il dit son nom est la parole de Dieu. Parce qu'il s'en vient exercer le jugement de la parole de Dieu qui était annoncée depuis des millénaires. Soyons clairs. Et au verset 16, il avait sur son vêtement, sur sa cuisse, un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Donc, on voit à part le nom secret qui à ce moment-là ne sera pas révélé, qui va être révélé sûrement plus tard, mais qui ne sera pas révélé là. On voit trois noms qui sont en rapport avec l'œuvre que Christ vient faire sur la terre à ce moment-là. Il est le fidèle, il est le véritable. Son nom est la parole de Dieu. C'est le roi des rois. C'est le Seigneur des Seigneurs. Il revient de cette façon-là. Quand il est venu la première fois, Jean-Baptiste l'a vu passer et il a dit, voici l'agneau de Dieu. Son nom, son titre, si vous voulez, il venait comme un agneau. C'était l'agneau de Dieu. Et quand il va revenir, le temps de l'agneau de Dieu est terminé. Ce qui revient, c'est le Christ, le juste juge, et les titres associés à son nom, c'est fidèle, véritable, la parole de Dieu, roi des rois, seigneur des seigneurs. Concernant cela, concernant son retour au niveau du jugement, concernant son retour au niveau du jugement, j'aimerais attirer votre attention sur le fait, quand il dit « il revient » et son nom est la parole de Dieu. Il revient pour juger et son nom est la parole de Dieu. Le jugement fait partie de la justice, bien-aimé. Je vous déclare une chose à ceux qui m'écoutent ce soir. Si quelqu'un a un litige, ou même s'il se passera quelque chose de grave, une infraction est commise grave à votre égard, tout le monde veut obtenir justice. Tout le monde veut avoir justice. Si quelqu'un, admettons, vole, rentrait chez toi, prendrait des choses de valeur dans ta maison, il se fait arrêter, il a vendu tes choses, tu t'attends à ce que la justice te fasse justice. C'est la justice. Et là, on parle de la justice des hommes. La justice de Dieu existe aussi. Si on réclame justice pour des crimes graves, là, maintenant, je vais aller sur des crimes qui seraient graves. Quelqu'un, admettons, qui commettrait un meurtre sur un, sur un de tes bien-aimés de ta maison pour sans cause, comme on voit que des choses des fois arrivent, eh bien, les gens, si on regarde les nouvelles, vont réclamer justice, vont dire, donnez-lui une peine qui correspond au crime commis. Ils vont demander justice. Et ça sonne bizarre des fois on ne veut qu'un Dieu d'amour qui va être sans justice. On ne veut qu'un Dieu d'amour qui n'exercera pas cette justice-là. L'image souvent, et je le dis là souvent, des fois un peu à la blague, mais sérieusement, souvent l'image qu'on a de Dieu, c'est une fausse image qui nous a été transmise d'une sorte de vieillard assis dans le ciel, un ciel vide, une sorte de vieillard qu'on peut y en passer des vitres, il s'en aperçoit pas, il pardonne tout, tout est correct, on peut faire n'importe quoi, puis à la fin, tout est beau. Mais il n'y a pas de justice sans jugement. Et pour qu'il y ait jugement, il faut qu'il y ait faute commise, faute jugée, et qu'il soit rendu un jugement équitable selon la faute commise. D'accord? Dieu est amour. Et ça, je vous le concède. Mais Dieu est aussi un juste juge. Est un juste juge. C'est-à-dire que Dieu est aussi juste. Et il ne peut pas, dans sa justice, laisser le crime impuni. Si on réclame de notre justice humaine, un tant soit peu de justice, si on réclame des tribunaux qu'on nous rende ce qui est équitable, à bien plus fortement Dieu le fera. Dieu, qui est un juste juge, va juger les gens selon la justice. Et c'est pour ça que cette justice-là est liée ici dans les versets qu'on vient de prendre à la parole de Dieu directement. Cette parole-là qui a été écrite depuis bien longtemps, auquel le monde a accès depuis bien longtemps. C'est par cette parole-là vivante, Christ étant la parole vivante, que le jugement aura lieu. D'accord? Donc, la justice de Dieu va être exercée de cette façon-là. Et il vient, Christ, il vient en exécuteur de la justice. Si vous tournez dans le livre de Joël, chapitre 2, verset 11, nous dit, l'exécuteur de sa parole est puissant. L'exécuteur, celui qui s'en vient exécuter la parole de Dieu, est puissant. Christ est venu un jour comme l'agneau de Dieu, exécuter ce qui avait été prophétisé. Il est mort comme un agneau. Il est venu pardonner les péchés pour ceux qui se confient en lui, qui l'acceptent comme Seigneur Sauveur personnel. Il est devenu l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, qui enlève ton péché, qui pardonne ton péché. Mais pour ceux qui ne croient pas, pour ceux qui le rejettent, pour ceux qui vont adorer la bête et son image, pour ceux qui vont servir le système dans ces temps-là, eh bien, il va revenir comme un juste juge. Pourquoi? Il va venir exécuter sa parole. Quand il y a une cour de justice qui se tient, et je vais terminer cette portion-là avec cela, quand il y a une cour de justice qui se tient, cette cour-là de justice qui se tient va rendre un jugement. Et ce jugement-là va être exécuté. C'est-à-dire, la sentence qui va être prononcée dans la cour de justice va trouver un exécuteur pour l'exécuter. Un geôlier de prison, une amende, tout dépendant de l'infraction qui s'est commise, il va avoir l'exécution d'une, ce qu'on appelle une sentence. Il appelle ça, la personne, elle est sentencée. La personne qui a commis la faute, que ce soit grave, que ce soit moins grave, vous savez, dans le quartier où je reste, il y a beaucoup de voitures et très peu de place pour stationner. Et semaine après semaine, il y a il passe le lundi pour passer le balai sur un côté de la rue et le mercredi sur l'autre côté. Et de semaine en semaine, il y a des gens. Je me lève le matin, je fais mes choses, et tout à coup, quand c'est l'heure où l'engin qui nettoie les rues passe, je vais voir, et il y a des gens qui ont une sentence dans le pare-brise. Ils ont laissé leur voiture là entre 9h30 et 10h30 le matin. C'est l'heure du nettoyage. Ils l'ont oublié. Ils n'ont pas pensé ou ils n'ont pas trouvé de place, peu importe, mais il y a une sentence qui va avec. Il y a quelqu'un qui passe et il leur remet un billet. Et ces gens-là sont en infraction. Et la sentence qui va avec, l'exécution de ça, c'est qu'ils ont, ils ont une contravention à payer. Et ils doivent exécuter, aller payer, ils ont été sentencés. Donc, soyons clairs, à des niveaux plus graves, la société va sentencer des gens, voire on a construit des prisons, voire dans certains pays, ça peut aller jusqu'à la peine capitale, où les gens qui commettent les crimes savent que dans leur pays, s'ils font telle chose, la sentence peut être extrêmement grave, voire mortelle. Et quand les gens se font prendre, eh bien, un juge rend la décision, sont sentencés, il y a quelqu'un qui va exécuter la sentence. Et vous pouvez vous imaginer que Dieu, en juste juge, va venir aussi exécuter une sentence sur la gouvernance de l'Antéchrist, sur les serviteurs de l'Antéchrist. Là, je vous parle pour ce temps-là spécifique. Je ne vous parle pas de notre temps à nous où, où on vit sous une autre dispensation. Oui, des gens qui meurent sans Christ sont sentencés, soyons clairs, mais on parle spécifiquement de ce temps-là. Donc, quand Christ va revenir, il revient en exécuteur de la parole de Dieu. Il ne revient pas seul, il revient avec nous. Soyons clairs. Et ne croyez pas, ne soyez pas dupes, ne vous dupez pas vous-même. Si Dieu a été capable de faire jaillir le monde par sa parole, de faire surgir le monde du néant en appelant le monde, la parole de Dieu a dit, Dieu, c'est celui qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Il les appelle comme si elles étaient. Et ces choses-là arrivent à l'existence. Soyons clairs. Donc, ne croyez pas que Dieu n'aura pas la force d'exécuter sa parole. Qu'il n'y aura pas la puissance d'exécuter sa parole. La parole de Dieu nous dit que ses ennemis vont être frappés par le souffle de sa bouche, par l'éclat de son avènement. Soyons clairs. C'est-à-dire que la bataille ne durera pas tellement longtemps et la sentence va être exécutée. Pour l'instant, le monde a du temps pour accepter Jésus comme Seigneur Sauveur personnel. Le diable est en jugement, mais l'exécution du jugement n'a pas lieu encore. Ça va avoir lieu lors de l'avènement de Christ. Le verset qu'on a pris, les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs revêtus de fin lin blanc pur. Christ revient. Il revient avec nous qui sommes associés à son règne, son Église qui va avoir été enlevée avant. Quand on va revenir, au jour du Seigneur, que l'ennemi va être frappé. L'épouse et l'époux, l'épouse étant l'Église, l'époux étant Christ, ne font qu'un. C'est l'Église qui va partager chaque moment de victoire avec Christ. C'est cela qu'on vient de lire ici quand on parle, qui revient d'un verset 11 à 16 et qui revient en vainqueur. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Chapitre 19, toujours. On va prendre maintenant les versets 17 à 21. Quand Christ va revenir, la parole de Dieu nous dit qu'il revient avec un épée aiguë tranchant, à deux tranchants, puis il va frapper la terre. Puis il va terrasser le méchant. Les gens qui ont acclamé l'Antéchrist, les nations qui vont l'avoir servi, qui vont l'avoir acclamé, devront, ceux qui périront pas lors de l'avènement du Seigneur pour le millénium qu'on va voir plus tard, vont devoir se soumettre à une nouvelle gouvernance. Et cette nouvelle gouvernance-là est annoncée à la fin du verset 16, avant qu'on prenne le verset 17, à la fin du verset 16, quand il dit « Et sur sa cuisse, un nom est écrit « Roi des rois, Seigneur des seigneurs ».« Roi des rois, Seigneur des seigneurs », c'est une gouvernance ça, qui vient. Un roi, il y a des sujets. Un roi, il y a des sujets. Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Donc, quand il va revenir, il va mettre un terme, il va arrêter les combats, les guerres, il va avoir un dernier combat dans la vallée de Josaphat, mais après cela, il va instaurer un règne. Pour qu'il y ait un règne, pour qu'il y ait un roi, pour qu'il y ait un seigneur qui règne. C'est pour ça, à la fin du verset 16, du chapitre 19, il nous dit, il y a un nom écrit sur sa cuisse, roi des rois, seigneur des seigneurs, et il va soumettre les nations. Et je sais que le terme soumettre, la soumission, les gens sont rebelles, et la soumission, c'est quelque chose qui est pas dans notre vocabulaire. Mais que ça y soit ou non, les gens de cette époque-là, ceux qui vont avoir été dans cette époque-là, vont se retrouver sous une nouvelle gouvernante, celle de Jésus. Maintenant, versets 17 à 21. Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil et cria d'une voix forte en disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel, « Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. Et je vis la bête et les rois de la terre et leurs armées rassemblées pour faire la guerre à celui qui est assis sur le cheval et à son armée. Donc, ces deux royaumes qui vont s'affronter. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels elle avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval. Et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. » Ici, on va faire assez simple. Un autre ange qui se tient dans le soleil pour annoncer la destruction d'une armée, d'une puissante armée, de l'armée de l'Antéchrist, comme on va le voir, qui va se rassembler dans la vallée d'Armageddon, une armée d'une myriade de myriades, c'est-à-dire, dans nos chiffres modernes à nous, environ de 200 millions d'individus. Naturellement, ça va déborder la vallée de Josaphat, ça va déborder Armageddon. Les troupes de l'Antéchrist, avec ces chefs, ces rois-là, cette coalition de chefs militaires, la Bible nous dit hommes libres, esclaves, petits et grands, sont rassemblés sur le champ de bataille suprême, si vous voulez, qui va s'achever dans un dans un carnage, procurant ainsi un peu un festin inespéré aux bêtes, aux oiseaux du ciel, soyons clairs. Si le règne de l'Antéchrist va avoir été impitoyable, va avoir tué des millions de personnes, la venue de Christ, elle, sur le champ de bataille, la venue de Christ va mettre un terme aux guerres. Le châtiment des armées de l'Antéchrist est impitoyable, venant de Christ, là, maintenant. Parce que Christ, je vous le répète, est un juste juge. Le chef de l'armée, l'Antéchrist, lui va être saisi. Son adjoint, le faux prophète, aussi vont être les premières victimes de la colère de Dieu, si vous voulez. Les armées de l'Antéchrist qui vont l'avoir suivi dans cette ultime révolte-là contre le ciel, contre la venue du Christ, vont se rencontrer là. Ces armées-là n'échapperont pas à une destruction que je pourrais appeler de foudroyante qui leur est réservée. Et vous savez une chose, tous les prophètes dans l'Ancien Testament ont annoncé cette guerre-là. Et même quand on cite, même des gens qui, ce n'est pas des étudiants de la Bible, qui ne lisent pas la Bible, qui ne croient pas en Dieu, si on parle d'Armageddon, les gens savent tout de suite de quoi on parle. Pourquoi? Parce que ça s'est répandu dans un vocabulaire moderne, puis les gens disent, ben, Armageddon, c'est le summum des guerres. C'est la Grande Guerre. Il y en a qui disent c'est la Troisième Guerre mondiale. Peu importe. Mais on avait vu dans le chapitre 19, les versets 20 et 21, cet appel-là au jugement qui était donné. Et tous les prophètes dans l'Ancien Testament, tous ceux qui ont prophétisé à la fin des temps, ont parlé de ces temps-là incroyable, où il va y avoir une destruction, un ravage incroyable avant le règne de Dieu sur la terre. Et le règne de Dieu sur la terre débute avec un millénium. Donc, à ne pas s'étonner, Christ étant un juste juge, revient avec, on a vu trois noms, avec des titres de jugement, dont il est l'exécuteur de la parole de Dieu. Ce qui nous a été annoncé, les peuples ne devraient pas être surpris, ce qui nous est annoncé depuis des centaines, voire plus de 3000 ans, qu'un jour Dieu va revenir. Que les gens y croient, y croient pas, ça ne change rien. Comme je vous disais, à un moment donné, je parlais avec un compagnon de travail avant ma retraite. Et je discutais un peu avec lui, puis il m'avait dit un peu, peut-être pour me flatter aussi un peu, pour essayer de me secouer aussi, il m'avait dit, André, je peux pas croire qu'un homme intelligent comme toi, tu peux croire à une chose comme ça. Puis je lui avais répondu, il s'appelait Robert, le monsieur, je lui avais dit, Robert, je peux pas croire qu'un homme intelligent comme toi ne croit pas à ça. Parce qu'on a des choses qui peuvent nous montrer que la parole de Dieu est exacte, qu'elle ne se trompe pas. Cet homme-là m'avait déjà dit lors d'une conversation un peu avant, il m'avait dit, tu sais, André, je t'entends parler avec les autres, tu viens à nos bureaux respectifs, tu échanges avec nous, puis des fois, ils se formaient des petits groupes. Et à un moment donné, tu sais, André, le ciel, l'enfer, tu parles de ça, tu sais, je m'en fous, je ne crois pas à ça. Puis il pensait que c'était une bonne échappatoire. Puis j'ai dit, mais mon ami, on s'en fout, tu vas y aller pareil. Parce que de ce côté-ci du ciel, c'est une question de foi. Mais quand on meurt, tous ceux qui sont morts avant nous, tous ceux qui vont mourir prochainement, et nous, les suivants peut-être, si le Seigneur ne vient pas avant, ce n'est plus une question de foi, ça devient une question de réalité. Les gens tombes dans une nouvelle réalité. Maintenant, même si tu te dis, maintenant, au moment où on se parle, tu te dis, il n'y a pas de pandémie, il y a une pandémie pareille. Même si tu te dis, moi, je suis déjà au paradis, tu es encore sur la terre. Et soyons clairs, c'est une réalité. Que tu l'admettes ou pas, ça devient une réalité. Quand les gens décèdent, ils tombent dans une autre réalité. C'est-à-dire, ils ont un autre genre de vie, on va dire ça comme ça. La réalité de ce monde s'éloigne, puis c'est l'autre réalité qui prend la place, soyons clairs. Donc, en cela, il faudra donc que Christ vienne exercer un juste jugement dans la vallée de Josaphat, dans le lieu appelé Armageddon, et qu'il fasse cesser toute guerre avant d'installer son règne à lui. Un règne théocratique, où Dieu va régner lui-même. Et si vous n'y croyez pas, ça ne changera rien. Jésus ne dira pas, OK, Marcel ou Thérèse ou Rita, ils ne croient pas, OK, c'est fini, time out, il n'y a plus le royaume de Dieu, Jésus ne reviendra jamais parce que Thérèse n'y croit pas ou Rita. Ça ne changera rien. Ça ne changera rien, c'est un fait qui va juste s'accomplir, c'est tout. Vous savez, il y a beaucoup de choses que les gens ne croyaient pas et qui aujourd'hui sont juste arrivées, c'est devenu de l'histoire. Il y a des prophéties qui étaient annoncées, que les gens disaient impossible, ça n'arrivera jamais, et c'est arrivé quand même. Et ceci, bon gré mal gré, va s'accomplir. Ceci étant dit, on a terminé le chapitre 19. Rentrons, on a le temps de rentrer dans le chapitre 20. On a commencé plus tard, naturellement, je vais vous garder un peu plus tard. On ne terminera pas à 20 heures. On a commencé à peu près là, quasiment 30 minutes de retard. Je vous garde jusqu'à 20h30. Donc, chapitre 20, les versets 1 à 3. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et le lia pour 1000 ans. Ça va être le millénium. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations. Donc, ça prouve que dans le millénium, il va y avoir des nations qui sont encore là, qui vont rentrer dans une nouvelle gouvernance à titre de nation. Vous allez avoir à ce moment-là deux types, pour ne pas dire trois types, de création, de créatures sur la terre. Des humains humains en chair et en os, des gens ressuscités vont être dans leur corps glorifié et le monde angélique qui est là, mais qui va devenir, disons, plus visible. Disons ça comme ça. Il les jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut, retenez-le bien, si je n'ai pas le temps de le prendre ce soir, on va le prendre la semaine prochaine, j'espère bien avoir le temps de le prendre. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Il y a des raisons pour lesquelles, après ça, après les 1000 ans, il va être délié. Donc, dans le verset 1 qu'on prend là, beaucoup y ont vu l'archange Michel, celui qui viendra avec une grande chaîne qui lierait Satan. Et beaucoup ont vu cela de cette façon-là, mais à l'éclairage, si vous voulez, à la lumière, si vous aimez mieux, de la parole de Dieu, ce serait fort étonnant. Puisque l'archange Michel n'avait même pas osé poser ou prononcer un jugement injurieux sur Satan lorsqu'il disputait avec lui le corps de Moïse. Si vous tournez dans Jude, le verset 9, je ne vous dis pas le chapitre parce qu'il y a juste un chapitre, mais au verset 9, vous trouvez, or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable, il lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime, Satan. Donc, qui d'autre qui serait capable de lier dans l'abîme le prince de ce monde? Qui d'autre serait capable de l'amener et de l'enfermer, de le jeter en prison, si ce n'est pas Christ lui-même par sa venue? Pourquoi il nous est représenté sous les traits d'un ange? Ça arrive dans la parole de Dieu. Rappelez-vous, on a parlé un peu plus longuement, là, quelques entretiens que j'ai eu avec vous, quelques leçons derrière nous, où je vous avais dit, il y avait des raisons pour lesquelles, dont une que je vous redonne d'emblée, quand Dieu fait affaire avec Israël, souvent l'ange de l'Éternel est associé à la personne de Dieu. Et ici, on y voit la même chose. Vous trouvez ça d'ailleurs dans le chapitre 10 de l'Apocalypse. J'aimerais attirer votre attention sur quatre noms qui sont donnés à Satan au moment de son incarcération. Les quatre noms, il dit au verset 2, il saisit le dragon, il l'appelle le serpent ancien, qui est le diable, et Satan. Il nomme ces quatre noms. Tantôt, on a parlé des noms. Et je vous ai dit que les noms étaient souvent significatifs de ce que la personne allait accomplir ou à quoi la vie de la personne allait ressembler ou au caractère de la personne. C'est pour ça d'ailleurs que Dieu change le nom de Jacob en Israël. Et vous trouvez ça, et vous trouvez ça à quelques endroits dans la parole de Dieu. Et le diable porte plusieurs noms qui décrivent un peu qui il est. Donc, le dragon, ce terme-là se réfère à sa puissance politique d'influence sur le monde, le dragon. Le serpent ancien, c'est un terme qui évoque sa ruse, son pouvoir de séduction qu'il va avoir exercé pour séduire le monde. Les rois de la terre, entre autres, le diable, qui rappelle son caractère menteur et calomniateur, qui calomnie Dieu, et Satan, terme qui désigne l'accusateur ou l'adversaire de Dieu. Ces quatre termes-là que vous trouvez ici, au verset 2, décrivent, si vous voulez, non seulement le caractère, mais le champ dans lequel le diable œuvre depuis sa révolte. C'est-à-dire que depuis ces temps-là, il séduit, il trompe, il calomnie, il ment, il accuse. Donc ces choses-là étant là, ces titres lui sont donnés au moment de son incarcération dans l'abîme. Et retenez bien au verset 3 où il dit, il le jeta dans l'abîme, ferma et scella au-dessus de lui l'entrée, afin qu'il ne vienne plus séduire les nations. Et ici, sans rentrer dans trop de détails, j'aimerais attirer votre attention en ce qui concerne l'abîme. Le terme abîme vient d'un terme grec où vous y trouvez son pendant en français, où on donne le terme abysse, dans les grandes profondeurs de l'océan, des endroits inexplorés, des endroits même où l'homme n'a jamais réussi à cause des énormes pressions à envoyer qui que ce soit. Le terme abîme dans la Bible revêt plusieurs facettes. Donc, le terme abîme veut dire profondeur. De là vient ton terme, un abysse. Je pense comme ça de mémoire à ce qu'on appelle la fosse des Mariannes. Et il y a une différence entre l'abîme et l'étang de feu et de soufre. Le terme abîme peut aussi signifier dans la Bible les profondeurs, mais aussi le séjour des morts, souvent mentionné dans les Écritures par deux termes, même plus que deux, j'en prendrai deux, ou j'en prendrai même trois, soyons clairs. On a le terme Sheol en hébreu et le terme Hadès en grec. Et on a le terme Saint d'Abraham aussi, ou Paradisos, qu'on trouve aussi dans le grec. Et à ce propos-là, l'abîme serait en quelque sorte comme c'est une figure de style que je prends, c'est une image. Mais ce n'est pas une image de l'endroit, là. C'est une figure de style dans le sens que le mot que je vais employer, c'est un pré-enfer. C'est un pré-enfer, disons ça comme ça, ou un lieu, plus exactement, de tourment provisoire pour les impies en attendant d'aller en enfer. Soyons clairs, l'enfer pour le moment est vide. D'ailleurs, la parole de Dieu nous dit que l'enfer n'a jamais été préparé pour nous, hein? Ça a été préparé pour le diable et ses anges. C'est sûr qu'il y a des gens qui vont se retrouver là. Ceux qui auront refusé l'œuvre de Christ, ceux qui vont avoir bafoué l'œuvre de Christ, ceux qui vont avoir rejeté le salut par grâce, car il n'y a de salut que dans la grâce de Dieu. Les bonnes œuvres ne nous sauvent pas. Parce que les bonnes œuvres ne pourront jamais faire contrepartie avec nos péchés, qui sont beaucoup plus, croyez-moi, lourds que nos bonnes œuvres. Donc, on n'équilibrera jamais la balance. Donc, Dieu est obligé de prendre une chair, un corps, de donner sa vie, de verser son sang, parce que c'est ce que toi et moi, nous méritions. Et Dieu dit, je vais nous appliquer mon œuvre à leur vie, et ceux qui vont accepter mon œuvre, eh bien, je vais être mort à leur place pour le péché, pour qu'ils n'aient pas à subir la seconde mort. La première mort étant quand notre corps est usé par le temps ou par la maladie et qu'on décède. Ça, c'est la mort. Mais on n'a pas à subir la seconde mort. Les gens qui meurent sans Christ ne vont pas tout de suite en enfer. L'enfer n'a pas été préparé, comme je vous ai dit. Donc, le premier à aller là, ça va être le diable, soyons clairs. Mais c'est quand même un lieu de châtiment éternel. Mais les gens qui meurent sans ce salut-là, gratuit, par grâce, vont dans le séjour des morts. Il y a une parabole qui est donnée à ce niveau-là. Et j'ai le temps et je crois que je vais le faire avec vous. Les gens disent, ils l'appellent la parabole de Lazare puis du mauvais riche. Mais nulle part dans la parole de Dieu nous dit que c'est une parabole. On l'a intitulée comme ça, nous. Mais la parole de Dieu ne nous dit pas que c'est une parabole. D'ailleurs, elle contient des choses qui ne sont pas communes à une parabole, dont un nom propre, Lazare. Généralement, une parabole, c'est toujours très impersonnel. Hein? Par exemple, les paraboles du royaume des cieux. Le royaume des cieux est semblable à une femme qui met du levain dans de la farine. Le royaume des cieux est semblable, comme, pareil. Mais ici, ce n'est pas ce qu'il nous est dit. Je vous fais la lecture rapidement. Qui se trouve dans Luc. Il y avait un homme riche. J'y vais rapidement parce que je vais avoir le temps de terminer cette portion-là. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre, de fin lin, qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre, nommé Lazare, était couché à sa porte couvert d'une serre et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et regardez bien, le pauvre mourut. Il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham, Paradisos. Le riche mourut aussi, il fut enseveli. Verset 23. Dans le séjour des morts, il leva les yeux Et tandis qu'il était en proie au tourment, donc il est dans un lieu, il est dans un lieu de conscience, il est dans un lieu où il a sa raison, où il a des souvenirs, où il sait. Donc, levant les yeux, il est en proie au tourment, vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a une description qui est faite. Il y a entre nous et vous un grand abîme. Le terme est pris ici, le terme abîme. Le terme abîme a aussi cette connotation-là. On a dit profondeur, il y a des grands abîmes dans l'eau, je vous ai parlé de la fosse de Mériam, mais le terme abîme est employé sous une autre forme ici, et il va lui dire, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Donc, c'est un abîme qui sépare deux endroits. D'accord? Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans ma maison, dans la maison de mon père, car j'ai cinq frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Donc, souffre, il est dans un lieu de tourment. Lazare est dans un lieu paradisos de repos appelé Saint d'Abraham. Il y a un abîme qui sépare les deux endroits. Et vous pourrez lire le reste. Alors, je ne veux pas rentrer dans trop de détails. Je ne vous ferai pas la description de tout, ce n'est pas le but de mon intervention. Mais ici, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on trouve? Qu'est-ce qu'on y voit dans les versets qu'on a pris, les trois premiers versets du chapitre 20? On voit descendre un ange, Christ, qui a les clés de l'abîme. D'ailleurs, la parole de Dieu nous dit que par sa mort, par sa résurrection, il s'est emparé des clés de l'abîme. Donc, ça peut juste être lui qui enferme le diable là. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, il le lia pour 1000 ans, il le jeta dans l'abîme, verset 3, et scella l'entrée au-dessus de lui afin qu'il ne vienne plus séduire les nations jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Et ensuite de ça, il va être libéré. Soyons clairs. Quand Christ est mort, il était mis 3 jours au tombeau. Christ, quand il est mort, il a été faire une œuvre. Une œuvre non visible aux yeux humains, mais il était dans ce lieu-là qui nous est expliqué dans ce qu'on appelle la parabole, en parenthèse, de Lazare et du mauvais riche. Si vous tournez dans Éphésiens chapitre 4, je vous dis ces choses-là pour que vous compreniez bien qu'il y a un lieu. Éphésiens chapitre 4, versets 8 et 9. Je vais même prendre jusqu'à 10. C'est pourquoi il est dit, lorsque Christ est mort, étant monté en haut, il a amené des captifs. Et il a fait des dons aux hommes. Verset 9. Or, que signifie il est monté? Sinon qu'il est descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus des cieux afin de remplir toute chose. Et dans 1 Pierre, chapitre 4, verset 6, je prendrai la partie A du verset 6, car l'Évangile a aussi été annoncé, surprenant, aux morts, afin qu'après avoir été jugés comme les hommes quant à la chair, ils vivent selon Dieu. Selon l'esprit. Toujours dans 1 Pierre, mais au chapitre 3 et le verset 19, c'est pour ça que je vous donne plusieurs endroits, nous dit que Christ, dans lequel il est aussi allé prêcher aux esprits qui étaient retenus captifs ou en prison. C'est pour ça que dans Éphésiens, on lit que quand Christ est ressuscité, il a ramené des captifs. Pendant le 3 jours, on va dire ça comme ça pour la forme, là, je n'irai pas dans les détails. Christ n'était pas dans le tombeau, les deux bras croisés, en attendant qu'on roule la pierre, là. L'œuvre du Christ n'était pas finie. D'ailleurs, beaucoup ont pensé que Christ était monté et était revenu lors de sa résurrection. Mais la parole de Dieu ne nous enseigne pas cela. C'est dans notre imagination. La parole de Dieu nous enseigne l'inverse. Elle nous dit qu'il est descendu. Puis il a même ramené des captifs avec lui. C'est-à-dire, Dieu est un juste juge, comme je vous ai dit. Ceux qui étaient morts sous l'ancienne alliance étaient sauvés pour ceux, parce que Dieu est omniscient, pour ceux qui étaient morts dans l'espérance du salut, eux qui ont été dans le sein d'Abraham étaient morts dans l'espérance de l'œuvre du Christ. Parce que je vous l'ai dit, nos bonnes œuvres ne nous sauvent pas. Nos péchés sont toujours plus nombreux, soyons clairs. Et quand l'œuvre de Christ a été faite, Christ, quand il est mort, est descendu, a été prêché aux esprits retenus captifs et est revenu après. Et c'est pour ça que vous allez trouver dans les évangiles où quand Christ ressuscite, juste pour vous montrer qu'il n'était pas monté au ciel tout de suite, Marie de Magdala veut y toucher. Puis il dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Donc, il n'y a pas été. Il dit, ne me touche pas. Le soir, il apparaît à ses disciples dans l'évangile de Jean, puis il va lui dire, touchez-moi. Donc, entre sa résurrection et l'apparition aux disciples, il s'est passé quelque chose, qu'Hébreu nous dit. Ce n'est pas le but de mon intervention, mais vous irez lire dans Hébreu, il a été offrir son propre sang et il a ouvert une voie nouvelle, une route nouvelle vers le ciel pour que ceux qui décèdent en Christ, ceux qui décèdent dans le Seigneur, ne descendent pas dans le sein d'Abraham, mais montent directement dans sa présence. Le sein d'Abraham, ou le paradisos, est aujourd'hui un endroit vide. Les captifs ont été amenés, ceux qui étaient retenus. Ceux qui meurent sans Christ, eux, le côté Hadès, ou flamme de feu, ou Sheol, existe toujours. Ils descendent dans cet endroit-là, qui est un pré-enfer, si vous voulez. Et Christ, quand il est descendu, a donné la parole. Et quand il a donné cette parole-là, ben, les gens avaient le choix d'accepter ou pas. Le même choix que vous et moi, on a. Il y avait des âmes qui arrivaient tous les jours. Il y a des gens qui meurent tous les jours. Des âmes désincarnées, c'est-à-dire sans corps, qui arrivaient dans le séjour des morts, d'un côté comme de l'autre. Tous les jours, plusieurs centaines par jour. Personne n'était jamais sorti de là. Et un jour, Christ est arrivé, il a prêché, puis il a dit, dans 3 jours, moi, je sors d'ici. Il y en a peut-être qui ont dit, ah, mon coco, t'es pas le premier à dire ça, puis on est tous restés ici. Il devait faire le même acte de foi que vous et moi, on a à faire. Le même acte de foi envers cette âme-là qui arrivait. Ce même acte de foi-là, de croire que Christ allait ressusciter des morts et les amener avec lui. Donc, il y a une justice dans le temps et dans la façon de procéder de Christ. D'accord? Donc, le verset qu'on a pris, il me reste 5 minutes, ce châtiment-là éternel, Christ dispose des clés du puits de l'abîme. On voit ici qu'il enferme l'ennemi pour une période de 1000 ans. C'est ce qu'on appelle le millénium qu'on va prendre la semaine prochaine parce que ben, il ne nous reste plus assez de temps pour le prendre. Et soyons clairs, on va regarder plus en détail la semaine prochaine le millénium, qui va l'habiter? De quoi va être fait le millénium? Ça peut vous paraître incroyable, mais il va y avoir 2 types, et même je vous ai dit même 3, mais je prendrai ces 2 types-là en particulier de créatures créées par Dieu qui vont se promener sur la terre, qui vont être en même temps sur la terre, c'est-à-dire les ressuscités, dans un corps glorifié, et on regardera qu'est-ce qu'un corps glorifié, c'est-à-dire un corps qui ne peut vieillir, être malade, avoir besoin de quoi que ce soit, mis à part de Dieu. Il va avoir des humains mortels dans leur chair qui vont devoir se soumettre à une gouvernance. Et cette gouvernance-là de Christ va avoir des particularités avec lesquelles les humains qui vont vivre à cette époque. Ça peut vous paraître incroyable, mais Christ va être encore prêché dans le millénium parce que les gens vont avoir des enfants. La terre qui va avoir été décimée jusqu'à un certain point de ses habitants, Christ va renouveler la nature et l'homme qui va être en petit nombre va commencer à repeupler et pour qu'il y ait un choix de fait, il va y avoir des gens qui vont naître pendant un millénium et qui vont ne connaître que la gouvernance de Christ. N'auront pas connu d'autres gouvernances. Ceux qui vont rentrer dans le millénium vont avoir connu l'autre gouvernance et eux autres vont apprécier la gouvernance de Christ, mais au bout de 200-300 ans, les enfants des enfants des enfants vont n'avoir connu que cela. Un peu à la même manière, et je vais terminer avec cet exemple-là, un peu à la même façon des Israélites qui marchaient dans le désert. Ils ont marché pendant 40 ans dans le désert. Quand ils ont commencé à marcher dans le désert, Dieu leur a dit, toute la génération qui m'a méprisé, qui a méprisé le bon pays que je voulais leur donner. Quand je vous dis que l'Ancien Testament est l'ombre du Nouveau et qu'il y a des exemples à aller chercher dans l'Ancien Testament avec lequel on peut avoir une image forte de ce que va ressembler le Nouveau Testament et ici de ce que va ressembler le millénium, tous les gens qui sont rentrés dans le désert après avoir méprisé la terre que Dieu voulait leur donner en disant oui, c'est une terre de lait et de miel, mais si on va là, on va être la proie des gens qui sont là, on va se faire tuer, on va se faire massacrer. Toutes ces personnes-là, Dieu leur dit, vous, vous n'entrerez pas dans ce pays-là. Vos cadavres vont tomber dans le désert. Je vais vous entretenir pendant le 40 ans, mais toute cette génération-là va décéder dans le désert. Mais ces gens-là ont eu des enfants. Et il y a des enfants qui sont venus au monde dans le désert et qui ne connaissaient que cela. Ils étaient rendus à 24, 25, 26, 30 ans et ils ne connaissaient que cette vie-là de nomade et ils ne connaissaient que cette vie-là où Dieu faisait tomber la manne, où il buvait à un rocher et ils ne connaissaient rien d'autre. Pour eux, le test à la fin de prise de possession de la terre promise était comme le test que les parents n'avaient pas passé. Parce que eux ne connaissaient que ce mode de vie-là. Les gens qui vont vivre le millénium dans ce temps-là vont être confrontés à la même chose. Ces gens-là vont avoir des enfants, vont pouvoir raconter à leurs enfants quel était le monde de ce temps-là, comment ça fonctionnait, les grandes guerres qu'il y a eu. Il va avoir des enseignements probablement de donner là-dessus. Parce que, aussi incroyable que ça peut vous paraître, le monde va fonctionner avec une gouvernance, là. Il va avoir une gouvernance juste et équitable, une gouvernance. Les gens vont semer, vont récolter, vont bâtir des maisons. Il va avoir une gouvernance, là. Ce n'est pas l'éternité encore. C'est le millénaire. Ça va être l'éternité pour nous, les enfants de Dieu, mais pour les hommes qui vont être sur la terre, c'est C'est pas l'éternité. Le temps va s'écouler pour eux. Et ils ne vont connaître que cela à la fin du millénium. Pour une bonne partie d'entre eux, c'est pour ça que le texte nous dit dans ce qu'on vient de lire, dans le verset 3 du chapitre 20, après que le diable soit jeté dans l'abîme et enfermé pour 1000 ans, la partie C du verset 3, après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Il faut, le diable va être délié pour un peu de temps. Ces gens-là vont avoir le même test de foi. Le même test de foi que vous et moi. Parce que Christ est juste. Le même test de foi, ils vont avoir toujours vu la gouvernance de Christ. Ils connaîtront rien d'autre qu'une gouvernance théocratique. Le monde va toujours pour eux avoir fonctionné de cette façon-là. Le diable va sortir, va les séduire. Et ça va être leur test. Nos premiers parents ont eu leur test. C'était pas un pommier, soyons clairs. L'arbre en question était plus un choix, était un arbre physique, là, soyons clairs. Il y avait vraiment quelque chose, mais c'était un choix qu'ils devaient exercer. Nous, on a un choix qu'on doit exercer pour ou contre Christ dans notre génération, comme les générations d'avant. Dans le temps où l'Antéchrist va venir, les gens vont avoir un choix à faire, connaissant, étant conscient, pouvant avoir accès à la connaissance, vont savoir que s'ils reçoivent la marque, et ensuite, bannis du royaume, vont avoir un choix qui va coûter cher, somme toute, vont devoir faire un choix. Les gens du millénium vont devoir faire un choix. Il faut qu'ils soient déliés pour peu de temps. Il faut, le « il faut » se trouve là pour que les gens fassent leur choix. Sinon, Dieu serait inique. Ce serait inéquitable. Tandis que Dieu est équitable. On va regarder ça à partir de la semaine prochaine et vous allez commencer à apprendre peut-être des choses surprenantes, des choses par lesquelles vous allez peut-être vous dire « oh! » parce qu'on voit ça des fois très, très simple. Les sauvés, les perdus, that's enough, ça serait que, comme ça. Mais vous allez voir que le plan de Dieu n'était pas cela au départ et ça ne se terminera pas tout à fait peut-être de la façon dont on l'imagine. Donc, on prie. Je vous remets entre les mains du Seigneur et la semaine prochaine, on prend à partir du verset 4 et on va regarder un peu cette gouvernance-là et on va regarder un peu comment les choses vont se dérouler. Seigneur, nous te rendons grâce, Seigneur, nous te remercions pour tout ce que tu fais, pour ta bonté, pour ta miséricorde. Seigneur, donne, Seigneur, aux bien-aimés, Seigneur, pendant cette semaine de la réflexion, qu'on puisse entrer en nous-mêmes, regarder ta parole et, Seigneur, qu'on soit des gens de décision, de bonne décision. Que ceux qui entendent cette série de messages-là, d'enseignements-là, Seigneur, semaine après semaine, puissent trouver, Seigneur, dans ces enseignements, non seulement une lumière pour éclairer leur sentier, mais Seigneur, aussi une espérance profonde et puissante, Seigneur, que tu ne laisses rien au hasard, que rien n'est le fruit tout simplement des événements, sans que toi tu chapeautes toute chose, ô Dieu. Seigneur, je te remets entre tes mains, Seigneur, ton peuple, les auditeurs qui ont entendu ce message. C'est toi, Seigneur, qui peux former en nous, Seigneur, tout le vouloir et le faire. C'est toi, Seigneur, aussi, qui nous dit dans ta parole que c'est par ton esprit, ô Dieu, que le monde peut être convaincu de péché, de justice et de jugement, Seigneur. Donc, Seigneur, convainc encore. Les temps ne sont pas encore accomplis. Combien de temps reste-t-il? Seigneur, nous ne savons pas. Et c'est bien, Seigneur, que nous ne savons pas, car nous nous tenons prêts à ton prochain retour, ô Dieu. Seigneur, bénis ton peuple, Seigneur, que ta parole, Seigneur, puisse trouver un bon sol, Seigneur, dans nos cœurs. J'ai prié dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés.